Vous savez que le monde a un besoin urgent d'espoir. Même les politiques le savent. Et aujourd'hui, il y a deux pays qui ont l'espoir de remporter quelque chose. Hein? Ah oui. Alors, Wikipédia dit ceci. L'espoir est une disposition de l'esprit humain reposant sur l'attente d'une situation meilleure à celle existante. Considéré comme une émotion, voire comme une passion, l'espoir, à ce titre, est opposé au désespoir. Espoir, désespoir. Alors ce matin, voilà, si Dieu le veut, j'aimerais traiter avec vous ce thème de « À Noël, l'espoir renaît ». Alors, il y aura trois parties. La première, donc, c'est la puissance de l'espoir. Deuxième, c'est Noël permet l'espoir. Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière la notion de espère en l'éternel? La puissance de l'espoir. Cette semaine, enfin, jeudi de la semaine dernière, nous avons étudié la fin du livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 31. Alors, ça finit par la débâcle de l'armée d'Israël, par la mort de Saül et de ses trois fils. Enfin, vraiment épouvantable. Et à la fin, il y a juste une petite lueur d'espoir. Ce lueur d'espoir, c'est les habitants d'un village reculé, loin, hein, qui est de l'autre côté du Jourdain. Ils habitent donc les habitants de Yabesh Galaad, qui sont venus et qui ont pris le corps de Saül et des fils de Saül pour ne pas les laisser les Philistins se réjouir davantage parce qu'ils avaient exposé sur une muraille. Ils vont accomplir un acte héroïque en venant récupérer ces corps exposés dans une zone occupée par les Philistins. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que au tout début de l'histoire, 40 ans avant, il est dit que qu'un roi, un ammonite, nommé Naash, vint camper devant leur village, Yabesh en Galaad, et tous les hommes de Yabesh dirent à Naash, conclue l'alliance avec nous et nous te servirons. Et il y a une condition à cette alliance, le roi donc Naash, l'ammonite, dit, je conclurai avec vous cette alliance à la condition que je vous crève tous l'œil droit, et que j'inflige ainsi un déshonneur à tout Israël. Ah, c'est chaud, hein? Bon, ça résout le problème des cataractes, mais quand même chaud, quoi. Hein? Et là, ce qui est... Non, c'était pas la blague à faire. Enfin, c'est tendu, hein? Ok, donc, là, ce qu'il y a, c'est que ils viennent voir, ils sont tous affolés, tous en train de pleurer. Ils se disent, mais qu'est-ce qui nous arrive? Venez nous aider. Et là, Saül, au tout début de son règne, se lève et va dire, eh bien, allez envoyer des messagers à ses habitants et dites-leur, ainsi vous parlerez à la population, demain, ce sera pour vous le salut quand le soleil donnera toute sa chaleur. Et les messagers vont annoncer cette nouvelle aux habitants de Yabesh qui s'en réjouirent. Ah, c'est quand même l'espoir. On va enfin pouvoir s'en sortir. Et Saül les délivra en infligeant une lourde défaite à Naash et aux Ammonites. Et 40 ans après, ces habitants se sont souvenus de l'impact que cet espoir et cette délivrance a eu dans leur vie. C'est Dostoïevski qui disait ceci, « Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. » Et c'est une réalité, hein. D'ailleurs, je suis très surpris, un des premiers sujets de prière de l'Église persécutée quand il y a une situation compliquée dans un lieu sur cette terre, c'est prier pour l'Église, pour que les chrétiens de telle région ne perdent pas espoir. C'est important, hein, l'espoir, c'est capital. Alors l'espoir est vital. Hein. Naufragé, en jetant la bouteille à la mer, eh bien, espère que quelqu'un trouvera sa bouteille et le délivrera. Et il vit avec cela, ça le tient en vie. Le prisonnier fait appel d'un jugement. Pourquoi? Parce qu'il espère que le juge ou les jurés seront plus cléments. Le malade à qui l'on propose un nouveau traitement, eh bien, est dans cette dimension de l'espoir. Et ce jeune diplômé est rempli d'espoir quand il arrive à décrocher, même pas un boulot, un premier entretien. Parce que, voilà, il espère. Même l'espoir le plus modeste peut décupler les forces et le courage. Alors, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de voir que des équipes dans le domaine du sport, quand elles sont en difficulté et que le match est en train de s'enliser, il suffit de marquer un but ou des points pour que la rencontre bascule et que le jeu devienne palpitant. Vous m'avez suivi, c'est la Coupe du Monde. Chez les Bégaras, ça va être chaud parce qu'il y en a un pour la France et l'autre pour... faudra deux pièces séparées, Ok. Eh oui, parce qu'il y a tout un peuple qui espère broder une troisième étoile, d'un côté comme de l'autre. Mais qu'arrive-t-il quand l'espoir s'éteint, L'abattement de ses supporters. Bon, il n'y a pas que le foot, c'est pas le plus terrible, Mais parfois, il y a des situations très compliquées où il n'y a plus d'espoir. Alors là, c'est la dépression. On atteint le fond du gouffre. Et le plus terrible, c'est que, il y a jusqu'au refus de vivre. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour le peuple d'Israël quand ils étaient assiégés par l'ennemi, que ce soit à Samarie, plus tard à Jérusalem, parce que Dieu leur avait tout simplement dit qu'il n'allait pas intervenir. Oh, plus d'espoir. Si Dieu n'intervient plus, tellement ils se sont rebellés contre lui. Mais le désespoir ultime, c'est celui de l'enfer. Parce que là, vraiment, il n'y aura plus aucune chance. Jésus dit lui-même que c'est le lieu où il y a une fournaise de feu. Il parle d'un lieu où il y a des pleurs, d'un lieu où il y a des grincements de dents. En fait, les gens sont surpris quand on parle de l'enfer. On dit oui, mais Jésus n'est pas venu pour ça, il nous aime, il va tous nous sauver. Mais la réalité, c'est que c'est Jésus lui-même qui a le plus mis l'accent sur l'enfer. C'est lui qui en parle le plus. Il nous aime et veut que nous ne tombions pas, que l'homme ne tombe pas dans ce lieu de désespoir total. C'est traduit par le feu éternel, là où les vers ne meurent pas, une ruine éternelle, les ténèbres du dehors. Il est certain que nous pouvons parler du réel impact du désespoir comme du réel impact de l'espoir. L'espoir est une nécessité psychologique, nous disent les spécialistes. Elle est indispensable à notre vie et à notre équilibre intérieur. Alors, espoir, oui, mais quel espoir? Est-ce que tous les espoirs sont permis? Est-ce que tous les espoirs sont à valider? Wikipédia dit que l'espoir est une disposition de l'esprit humain reposant sur l'attente d'une situation meilleure à celle existante. Alors, donc, comment considérer tous les espoirs qui se présentent? Eh bien, ils ne sont pas forcément tous positifs. Des fois, il y a le faux espoir du changement et de la paix. Un Thessalonicien, dans cet épître, Paul nous écrit « Quand les hommes diront paix et sécurité, enfin l'espoir, eh bien, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Pensons à l'espoir de l'ère industrielle et de monde meilleur qui a donné un cauchemar écologique. Pensons à l'espoir de ce malade qui prend un traitement et dont les effets secondaires font plus de mal que le bien promis. Pensons à ces projets prometteurs qui tournent à de véritables déceptions. Il y a aussi le faux espoir des pharisiens. Lorsqu'ils sont venus à Jean-Baptiste, eh bien, ils étaient pharisiens, descendants d'Abraham. Et que dit Jean-Baptiste? Alors, quand il les voit venir au baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, Jean-Baptiste leur dit, quel accueil, soyez les bienvenus. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ah oui, n'imaginez pas pouvoir dire, Ah, notre espoir, c'est Abraham. Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare, ajoute Jean, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres et tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ah. Il y a de faux espoirs aussi. Si l'espoir est nécessaire à l'homme pour qu'il surmonte les épreuves de cette vie, eh bien, en réalité, beaucoup de choses que nous avons espérées et qui se sont réalisées ont fini par nous décevoir ou nous lasser. Une fois la chose obtenue, hein, eh bien, le désir et l'enthousiasme finissent par diminuer, voire disparaître, pour ne laisser place qu'au fil du temps à un sentiment de vanité. C'est pourquoi la Bible nous rappelle qu'il y a l'espoir selon ce monde et l'espoir selon Dieu. On appelle espérance. Alors, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était invité à regarder au-delà de leur esclavage, hein, au pays promis. Et puis, arrivé au pays promis, eh bien, ils avaient la prospérité devant eux, la sécurité, mais Israël était appelé à espérer à la gloire de Dieu qui allait venir, à celle du Sauveur qui allait être donné, à la nouvelle alliance, à la paix universelle du règne de Dieu. Et ce sont, au cours de l'histoire, des étapes de grande déception. Israël a délaissé les promesses de Dieu, il a rejeté son appel, cet espoir a laissé place à la déception. Et les prophètes ont dû, parfois, rallumer l'espoir pour le peuple d'Israël. Alors, voici que tout l'Ancien Testament est une tension entre le désespoir de l'homme et l'espoir que Dieu doit apporter. Alors, qu'arrive-t-il à Noël? Eh bien, à Noël, c'est l'espoir de ceux qui n'ont plus d'espoir. L'histoire continue, elle a un nouveau rebondissement à Noël. On a lu ce matin, hein, Ésaïe, chapitre 9, déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si dans un premier temps a rendu négligeable le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir donnera de la gloire à la route de la mer et au-delà du Jourdain, territoire des nations. Ésaïe ajoute, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière, ceux qui habitent le pays de l'homme de la mort, sur eux, une lumière resplendit. Alors ça a l'air peut-être flou pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que Nephtali? Qu'est-ce que Zabulon? Si nous regardons la carte d'Israël et la répartition des tribus, voilà ce que les tribus ont pu obtenir avec Josué et par la suite, quand ils ont pris possession de l'héritage que Dieu avait pour eux. Alors le contexte, c'est que en haut, il y avait deux tribus, Zabulon et Nephtali. Et cette région est terrible. Elle était encore entre les mains des païens. On voit dans cette région donc que la population est restée fortement mélangée avec les païens. Beaucoup de Cananéens demeurent après la conquête. C'est une région que Salomon a donnée à Hiram, vous savez, pour le remercier. Et qu'est-ce qu'Hiram a fait? Il a dit, mais j'en veux pas là de cette région. Personne ne voulait cette région. Absolument personne. Cette partie du territoire était éloignée de Jérusalem. Et les Juifs eux-mêmes craignaient cette région. Alors cette région s'appelle donc en hébreu Galil, donc qui veut dire district, hein, Agoyim, Goyim, Goy, des nations. C'était le district des nations. Et le mot Galil a donné Galil, Galilée. C'est pourquoi on l'appelle Galilée. En fait, cette région rappelait à Israël sa honte et sa défaite. Il n'y a plus d'espoir. Et au temps d'Ésaïe, il reçoit un message de la part de Dieu. Et il dit, vous voyez cette région? Eh bien, dans cette région, une lumière va paraître. Mais quelle lumière? Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Pourquoi est-ce que nous en sommes ici? Hein? Et alors, nous savons très bien que c'est de cette région que l'espoir est né. C'est là où la lumière est apparue. Marie a reçu en Galilée la visite de l'ange. Ils étaient tous deux de Nazareth, en Galilée. C'est depuis la Galilée que Marie et Joseph sont venus jusqu'à Bethléem. Et puis, ils vont y revenir par la suite. Et bien sûr, c'est à la Galilée que Jésus a consacré la plus grande partie de son ministère. Voilà la lumière qui a brillé dans ce pays de Naphtali et de Zabulon sur un peuple assis dans les ténèbres. L'espoir en Israël commence à renaître au nord, mais pas qu'au nord, au sud aussi. Il est dit dans l'évangile de Luc qu'il y avait dans cette même contrée autour de Bethléem, Jérusalem, des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange dit, soyez sans crainte car j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors pourquoi Dieu s'adresse-t-il à des bergers? Eh bien, vous savez, ils ne sont pas forcément plus particulièrement pieux. Ils ont même une mauvaise réputation. Certains commentateurs disent que leur réputation était tellement mauvaise que déjà les Égyptiens n'en voulaient pas, mais que les habitants de Jérusalem et tous leurs frères les considéraient comme non fiables, hein, parce qu'ils n'arrivaient pas à distinguer de ce qui est à moi à ce qui est à toi. Et ils essayaient de prendre un peu les brebis du troupeau de l'autre, hein, à tel point que c'est une des raisons qui a fait qu'on les a empêchés de témoigner dans les procès. Voilà. Ce gars-là ne croit pas ce qu'il dit, hein. Il est berger. C'est curieux. C'est eux que les anges vont devant eux vont apparaître. C'est eux que Dieu a choisi pour encourager Marie et Joseph et pour annoncer aux autres la bonne nouvelle. À Noël, en fait, c'est l'espoir qui renaît pour beaucoup en Israël. Un espoir qui nous vient de Dieu, plus qu'une simple joie passagère. Ce n'est pas la naissance de roi quelconque que nous allons célébrer cette semaine, mais la naissance du Sauveur d'Israël, du Sauveur de l'humanité. C'est bien un enfant qui nous a été donné à un peuple désespéré, qui est assis dans les ténèbres. Un espoir à ces bergers, petites gens, qui sont regardés avec beaucoup de mépris. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. L'espoir véritable pour toute l'humanité repose en Jésus seul. C'est ça le message de Noël. Ne cherchez pas un espoir durable ailleurs. Si, il y a des choses qui peuvent aider, mais le véritable espoir éternel, c'est ce Jésus. Oui, l'apôtre Paul dira, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse du mystère parmi vous, les païens. C'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mon frère, ma sœur, qu'en est-il de notre espérance? Qu'en est-il de nos espoirs? Sommes-nous des personnes connues pour espérer? Est-ce que les autres nous reconnaissent comme ceux qui ont une espérance, un espoir particulier dans leur cœur? Alors, dans la Bible, il y a une injonction. L'espoir, espérer n'est pas une option pour telle partie des frères, des sœurs et pas pour les autres. Espère en l'Éternel. Dans les psaumes et dans la Bible, souvent, il est donné cet ordre. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi que ton cœur s'affermisse. Et le psalmiste rajoute, espère en l'Éternel. Il nous martèle avec cela. Psaume 37, David écrit, espère en l'Éternel. Garde sa voix. Psaume 130, j'espère en l'Éternel. Mon âme espère et je m'attends à sa parole. Même le proverbe nous dit ceci, ne dis pas je rendrai le mal pour le mal, mais espère en l'Éternel et il te sauvera. Le chrétien possède une force vitale en lui par rapport à ceux qui sont privés de la connaissance de Jésus. Nous avons cette espérance. Paul dira, ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Elle est là en nous, ancrée cette espérance. Nous sommes le peuple qui est caractérisé par cet espoir qui nous vient de là-haut. ne l'oublions pas. Est-ce que nous le vivons cela? Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que nous en sommes conscients tous les jours? Attendons-nous la réalisation des plans de Dieu. C'est Michael Maiden qui a écrit ceci, hein. Votre âme a besoin d'espoir de la même manière que nos poumons ont besoin d'oxygène pour survivre. Nous ne pouvons pas être en bonne santé sans espoir. Lorsque l'espoir s'en va, c'est la peur, le découragement, la dépression, l'anxiété et d'autres choses blessantes qui entrent en jeu. L'espoir est l'antibiotique curatif du ciel qui tue le virus de la peur. Ayez de l'espoir. La Bible ne nous invite pas à dire, si tu as envie, prends, espère en l'Éternel. Mais c'est une injonction. Espère en l'Éternel. Une invitation appuyée par Dieu. Évidemment, l'espérance du chrétien va se reposer pas sur ce qu'il ressent avant tout, mais sur ce que Dieu dit, sur la parole de Dieu, sur la fidélité de Dieu. L'espérance et l'espoir nous donnent une autre dimension de la réalité. Jésus, le Fils de Dieu, est venu parmi nous. Pourquoi? Pourquoi a-t-il accompli des miracles? Dans quel but? Jésus a enseigné au milieu de nous. Il est mort à la croix. Il a été mis au tombeau. Et dans quel but? Jésus est ressuscité, il est monté au ciel, il nous a envoyé son Saint-Esprit en nous. Dans quel but? Il nous promet la vie éternelle. Il nous la donne quand nous lui demandons. Dans quel but? Il a promis qu'il reviendrait. Dans quel but? Nous voir désespérés? Nous voir découragés? Jamais. Impossible. Si c'est le cas, ça ne doit rester que passager. Oui, Jésus est venu pour nous sauver. Ôter les dégâts que le péché crée en nous. Nous pardonner, nous l'avons entendu, nous réconcilier avec le Père. Il ne souhaite pas que nous vivions dans une situation tellement profonde du désespoir que nous pourrions dire il n'y a plus de lumière pour nous. Le gouffre sans fond de nos inquiétudes, l'incertitude et la tristesse devraient laisser la place à cette lumière qui vient en nous. Alors, il faut que nous voulions espérer. Il faut que nous disions à Dieu, Seigneur, je n'ai plus d'espoir humainement, mais je veux espérer. Et c'est ce merveilleux passage de Jérémie, hein. Jérémie, où il a dit, voilà, elle est perdue. Qu'est-ce qui est perdu, Jérémie? Ma confiance en l'Éternel est perdue. Ça vous arrive? Dur, hein? Mon espérance en l'Éternel est perdue. Et puis, il parle à Dieu quand même. Souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, de l'absinthe et du poison. Mon âme s'en souvient bien, elle. Elle est abattue au-dedans de moi. Et que dit Jérémie? Voici ce que je veux repasser. Voici ce pourquoi j'espère. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin parce que grande est sa fidélité. Et il dit à son âme, il se secoue à l'intérieur de lui-même. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Voici pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour qui le cherche. Mon frère, ma sœur, parfois, j'ai l'impression que la tiédeur de notre désespoir commence à envahir tout notre cœur. Nous devrions pouvoir en nous-mêmes nous secouer et dire, Seigneur, je veux espérer en toi. Parce que il n'y a que toi qui peut être cet appui fiable, ce rocher inébranlable. Et c'est ce que Osée, chapitre 12, verset 7, nous dit. Et toi, tu reviendras à ton Dieu. Garde la loyauté et le droit. Espère de temps en temps en ton Dieu. Excusez-moi, j'ai mal lu. Espère du lundi au vendredi seul. Non. Espère toujours en ton Dieu. C'est quelque chose, hein? Espère toujours en ton Dieu. Vous voyez, la foi, c'est croire ce que Dieu dit, et l'espérance, c'est attendre ce que Dieu dit. C'est indispensable. Mon frère, ma sœur, nous avons tellement de raisons pour espérer. tellement. Vous connaissez? Oui. Oh là là. Quel drame cette histoire, hein, au début. Une jeune fille pleine de santé qui, suite à un plongeon, reste tétraplégique dès sa jeunesse. J'aime beaucoup Yoni Erickson, ses écrits aussi. Hein. Il n'y a pas que moi, je sais que d'autres personnes aussi. Voilà ce qu'elle écrit. Elle qui est limitée, qui ne peut qu'à peine bouger sa tête, voilà ce qu'elle écrit. J'ai encore du mal à y croire, écrit-elle. Moi qui ai des doigts ratatinés et tordus, des muscles atrophiés, les genoux noueux et qui ne ressent plus rien à partir des épaules. J'aurai un jour un nouveau corps, léger, brillant et vêtu de justice, un corps puissant et éblouissant. Pouvez-vous imaginer l'espoir que cela donne à une personne blessée comme moi, écrit-elle, ou une personne souffrant de lésions cérébrales ou de sclérose en plaques? Imaginez l'espoir que cela donne à quelqu'un qui est maniaco-dépressif. Et elle ajoute, aucune religion dans ce monde, aucune philosophie ne promet un nouveau corps, un nouveau cœur et un nouvel esprit. Ce n'est que dans l'évangile de Christ que les personnes en difficulté trouve un espoir aussi incroyable. C'est merveilleux, non? Paul a pu écrire lorsque l'être extérieur se dégrade, l'être intérieur, lui, hein, se fortifie. Oui, Dieu est avec nous. Il est avec nous même si nous ne le sentons pas ou même si nous ne le ressentons pas. Il est là dans nos grandes détresses. Il est là en ce monde qui connaît tellement de situations désespérées. Alors, lorsque nous avançons et nous disons « Mais où est Dieu ?» Eh bien, Dieu, il est encore plus proche que notre propre souffle, disait Rosalind Buttendorf. Plus proche encore qu'est notre propre souffle. Oui, c'est cela l'espoir au cœur de la foi chrétienne, l'espoir auquel nous revenons à chaque Noël. Dieu parmi nous, Dieu proche de nous. Alors, mon frère, ma sœur, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque Noël nous rapproche un peu plus de la réalisation de toutes les promesses de Dieu qui changera à tout jamais la face de l'humanité. Nous espérons aussi au retour en gloire de cet enfant né il y a plus de 2000 ans, tel qu'il est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Le même Jésus va revenir et nous libérer pleinement. Alors, voilà ce que l'apôtre Paul nous laisse, que le Dieu de l'espérance, qui a ce plein espoir, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël avec cette espérance, cet espoir renouvelé dont nous avons en nous une présence et dont nous avons besoin de témoigner à ce monde. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.